sur le PowerPoint qu'il y a derrière moi. Le thème, c'est l'avenir d'Internet. Et évidemment, la question de l'avenir d'Internet, je commencerai par là, dont je vais essayer de vous parler cet après-midi, c'est une question d'une très grande difficulté. Pourquoi d'une très grande difficulté? Parce que, d'abord, il est toujours difficile de parler de l'avenir. Hein. Il est toujours difficile de faire de la futurologie, comme on dit. Hein. C'est un exercice périlleux. Mais ensuite, parce que c'est encore plus difficile quand il s'agit d'Internet. Vous verrez pourquoi, mais je pense que vous savez que son avenir est encore plus obscur que celui de toute autre chose. Pour le comprendre, essayez de vous ramener, pour vous, c'est bien, c'est de la préhistoire, mais en 1993. Et en 1993, 94, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Internet en France, il y avait 900 000 utilisateurs au monde. 900 000. Et le nombre de sites était de 200. Vous imaginez ce que c'est que 200 sites sur Internet. Actuellement, vous savez qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs d'Internet et qu'il y a plus de 30 milliards de sites. Pour vous montrer cette évolution, si on m'avait dit ça, moi je suis arrivé sur Internet en 94, je crois. Si on m'avait dit ça en 94, je me dis, mais vous rêvez, c'est impossible. Hein. Reportez-vous 20 ans plus tard, mettez-vous en 2030. Hein, bien, évidemment, on n'a pas l'idée de ce que sera Internet en 2030. Alors, aujourd'hui, Internet, vous le savez, bon, évidemment, est partout présent dans votre vie. Je cite quelques usages en vrac, le courrier électronique, les chats, les réseaux locaux, les réseaux sociaux, pardon, le commerce en ligne, les contacts avec les banques et les administrations, les consultations et constructions de blogs, il y en a peut-être parmi vous qui ont des blogs, hein, la presse en ligne, les téléchargements de musique, j'espère légaux, les téléchargements de musique et de films, le travail en collaboration avec d'autres par le cloud computing, les jeux en ligne, la consultation de Wikipédia, puisque aujourd'hui c'est à peu près inévitable, le téléphone, la télévision, les cours et les formations en ligne, et sans parler de tous les usages d'Internet que vous ne voyez pas, qui sont pratiquement invisibles, lorsque vous faites appel à tel ou tel service commercial, médical ou culturel, qui ne fonctionne que grâce à Internet. Alors j'attirerai juste l'attention dans cette introduction sur deux traits de cette évolution avant d'essayer de définir plus précisément ce qu'est Internet et de parler de son avenir. Le premier trait, c'est le suivant, le premier caractère, c'est que la dernière forme prise par Internet, hein, ce qu'on appelle le Web 2.0, que je définirai un peu plus précisément tout à l'heure, eh bien, en fait quelque chose de très différent, vraiment très différent de ce qu'il était, au début. Non, je ne suis pas encore là. Très différent de ce qu'il était au début, puisque vous savez sans doute qu'Internet est né, disons, dans des milieux universitaires et militaires américains, dans une petite élite, hein, et qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent Internet, eh bien, ce sont des utilisateurs moyens, comme vous et moi, des Iraniens, des Tunisiens, des Chinois, qui sont sur Facebook et qui font des blogs, etc. Et donc, le public et les usages d'Internet ont complètement changé. Et la deuxième caractéristique, le deuxième trait par lequel je terminerai cette introduction, c'est que l'évolution d'Internet, vous le savez, n'a été guidée par personne, puisque par construction, par définition même, Internet est un outil ouvert. Disons que son évolution est la résultante d'une multitude d'inventions qui partent de la base, hein, qui partent des utilisateurs, et ces inventions, hein, même s'ils ont donné naissance, pour certaines d'entre elles, vous le savez, à des véritables mastodontes, hein, comme Facebook, comme Google, etc., elles sont quand même parties de la base, elles sont parties d'utilisateurs qui ont inventé de nouveaux outils que d'autres utilisateurs, vous, moi, ont apprécié, ils se sont appropriés ces outils et ils les ont fait évoluer. Je pense que certains d'entre vous ont vu le film The Social Network, hein, sur la naissance de Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Hein. C'est un film tout à fait intéressant où l'on voit comment Internet est né un étudiant un peu raté d'ailleurs, hein, Harvard, qui invente Facebook pour espionner sa copine. Hein. C'est né un peu de cela. Hein. Puis après, on voit des utilisations nouvelles, et puis peu à peu, il s'aperçoit que ça peut devenir un réseau mondial. Aujourd'hui, il y a 500 000 000 000 d'individus qui ont un compte sur Facebook. Hein. Vous imaginez ce que ça peut représenter, alors que Facebook n'est né qu'en 2004, hein, le tout début. Alors, je vais essayer maintenant de vous parler un petit peu du futur d'Internet, un petit peu. Hein. Brièvement, auparavant, je souhaiterais faire quelques définitions qu'il faut bien connaître pour ne pas faire des confusions. Et trois définitions, vous les voyez ici, Internet, Web, et Web 2.0. Alors d'abord, une définition brève d'Internet. Il y a un grand spécialiste qui s'appelle Paul Mathias d'Internet, qui a écrit un livre sur Internet, qui donne une définition très dense. Donc je vais la lire, mais en même temps la commenter, parce qu'elle est vraiment très serrée. Il nous dit qu'Internet, c'est le point de convergence de trois choses. D'abord, d'une architecture industrielle distribuée. Qu'est-ce qu'il veut dire par une architecture industrielle distribuée? C'est-à-dire des outils publics et privés qui sont distribués sur toute la planète, qui sont des satellites, des serveurs, des fibres, des organismes de gestion de surveillance, etc. Donc une convergence entre cette architecture distribuée, de multiples langages informatiques interopérables. C'est dit de manière un peu complexe, mais ces langages, c'est ce qui fait tourner Internet. Par exemple, vous connaissez le TCP/IP, hein, qui permet d'envoyer tout simplement les paquets d'informations par Internet. Et puis, il y a de nombreux langages qui s'appellent des protocoles, des algorithmes qui vous permettent de faire telle ou telle opération sur Internet. Et puis, enfin, il ajoute une troisième chose, donc la convergence de ces deux choses avec, bien sûr, un très grand nombre de pratiques intellectuelles. Un très grand nombre de pratiques intellectuelles, chercher dans une banque de données, jouer, dialoguer, échanger des informations, etc. Donc voilà pour la définition au sens strict, hein, d'Internet. Pourquoi je rappelle ce qu'est Internet? Parce qu'il ne faut pas confondre avec le web. Très souvent en France, on emploie les mots les uns pour les autres. Hein. Le web, c'est la toile en français, hein. C'est ce à quoi vous accédez quand vous ouvrez un navigateur. Hein. Et en réalité, le web, on peut le définir très brièvement, hein, comme une organisation non hiérarchique de l'information. Donc les informations sont stockées, mais de manière non hiérarchique, par un langage que vous connaissez, qui est un langage extrêmement simple, mais extrêmement puissant, qui s'appelle le HTML. Hein, et l'élément central de ce langage, c'est une invention géniale, c'est le lien hypertexte, hein, qui permet d'aller d'une page à une autre, etc., et de manière non hiérarchique. Enfin, une dernière définition, parce qu'on aura beaucoup à en parler aujourd'hui, le web 2.0. Hein, c'est le web que vous connaissez aujourd'hui, qui se caractérise, mais peut-être que vous ne le voyez pas, parce que vous n'avez pas connu autre chose que le web 2.0. Hein, mais moi, j'ai connu l'autre web, et il se caractérise par trois choses. Hein, d'abord, une extraordinaire réorganisation des contenus. Sans cesse, le contenu est réorganisé. Pensez, par exemple, hein, quand vous consultez une page sur Google, en réalité, mais vous ne le savez peut-être pas, vous votez. Hein. Vous votez parce que vous allez modifier le classement de la page à laquelle vous accédez, dans ce qui s'appelle la page rank, hein, la page, vous allez faire passer, vous allez faire monter ou descendre, hein, dans la page. Hein. Donc, une réorganisation permanente, automatique, hein, faite par personne, et statistique. Et puis, deuxièmement, un web qui est extrêmement interactif. Vous connaissez les blogs, les commentaires, à chaque instant, ça c'est nouveau, hein. C'est une nouvelle fonction qui a été mise au point par des petits instruments comme les wikis que vous connaissez peut-être. Hein. Et puis troisièmement, enfin la dernière caractéristique du web 2.0, c'est qu'il est, il permet une communication qui est de moins en moins une communication de 1 à 1, comme le mail, hein, par exemple, mais ce n'est pas non plus une communication de un à plusieurs, comme les journaux traditionnels, comme les télés traditionnelles. C'est, disons, au moins potentiellement, hein, en puissance, c'est une communication de chacun à tous. On le verra quand on parlera tout à l'heure de la presse. Alors, je crois que nous pouvons maintenant aborder le futur d'Internet, et dont on peut parler à grands traits de ce futur, parce que le développement d'Internet pose un certain nombre de problèmes que l'humanité va devoir résoudre, et ce sont ces problèmes qui se posent à différents niveaux dont je vais parler. J'ai distingué, vous voyez sur le tableau derrière moi, deux types de problèmes. Un premier niveau dont je ne parlerai que très peu. Il y a des problèmes très techniques, économiques, juridiques, politiques, qui ne se posent pas directement à vous. Je veux dire qu'ils ne se posent pas directement à moi non plus, hein, à l'utilisateur moyen, et qui ne se posent pas non plus tellement, c'est dommage d'ailleurs, aux citoyens que nous sommes, parce que ce sont des problèmes très importants. Mais comme ce sont des problèmes techniques, vous ne les rencontrez pas tous les jours, à la différence des autres problèmes que j'ai mis au-dessous, que vous allez rencontrer très souvent. Alors quels sont ces problèmes? J'en ai sélectionné trois. On aura peut-être l'occasion d'en parler, ce sont des problèmes extrêmement importants et pour le futur d'Internet. Bien, le premier, je lui ai donné un nom savant, algorithme. Qu'est-ce que c'est que la question des algorithmes des moteurs de recherche? Un algorithme, c'est un petit programme, un robot qui parcourt à toute vitesse, vous le savez, l'information, hein, et qui utilise divers critères pour trouver cette information. Alors ça peut être ça peut être le critère de la fréquentation, ça peut être la vitesse de rafraîchissement du site, si le site a été vraiment mis à jour ou non, etc. Donc il y a tout un ensemble de critères. Ces critères, ils déterminent, ils sont très importants parce qu'ils déterminent le choix du classement, hein, de l'information. Et vous imaginez bien qu'il est essentiel d'analyser, hein, ces critères, parce qu'il y en a qui sont assez obscurs, par exemple les critères publicitaires. Hein. Il faut absolument réfléchir sur les algorithmes, parce que les algorithmes, finalement, c'est d'eux que dépend la visibilité ou la non-visibilité d'un site, d'une page, etc. Un deuxième problème que j'ai appelé la gouvernance, c'est un problème fondamental. La gouvernance d'Internet, c'est-à-dire c'est la question des institutions qui sont mi-privées, mi-publiques, qui gouvernent Internet. Ces institutions, vous le connaissez, il y en a une qui s'appelle l'IETF, et puis il y en a une autre qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle l'ICANN. Ces institutions, bien, en gros, hein, elles ont pour but de définir les normes informatique, les normes des logiciels qui font tourner Internet. Hein. Et vous imaginez que la composition de ces institutions et la définition de leur rôle est une question fondamentale, car ils prennent tous les jours des décisions très importantes. Je voudrais vous en citer une qui a été prise récemment. Hein. Par exemple, ils ont décidé, il y a très peu de temps, que désormais on pourrait écrire les URL, hein, les adresses dans le navigateur, on pourrait les écrire en caractère chinois et en caractère arabe. Vous imaginez à quel point c'est une décision importante, parce qu'il y a des quantités de gens qui parlent arabe ou chinois, qui ne sont pas forcément des dirigeants, qui ne sont pas forcément des gens qui maîtrisent des langues étrangères, et qui ont du mal à taper les caractères latins qui leur connaissent mal, hein, donc qui ne pouvaient pas écrire en anglais. Et d'un seul coup, ils peuvent écrire en chinois, ils peuvent écrire en arabe. Il y a quantité de problèmes semblables. Vous voyez que ce ne sont pas des problèmes immédiats, vous ne les rencontrez pas tous les jours, mais ce sont des problèmes importants. Troisièmement, il y a la question, mais alors là je ne vais pas en parler parce qu'on en parle tous les jours, il suffit d'ouvrir la presse, c'est la question de la vie privée, hein, bien évidemment. La question de la vie privée, c'est un énorme problème. Qu'est-ce qui peut figurer sur Internet? Qu'est-ce qui doit figurer sur Internet? Qu'est-ce qui ne doit pas figurer? Vous savez que c'est un problème, on aura l'occasion, je pense, d'en parler, c'est un problème individuel, d'abord, mais pas seulement, hein, c'est-à-dire c'est à vous, hein. À savoir ce que vous installez sur Internet. Hein. Et de plus en plus, je crois qu'il faut que vous contrôliez très bien ce que vous mettez sur Internet. Hein. Mais ce n'est pas seulement une question individuelle, hein. C'est aussi une question collective. Hein. C'est aussi la question de quelles sont les règles de fonctionnement de Facebook, de Google, etc. Hein. C'est une question qui se pose au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Bon, voilà ces problèmes dont je ne parlerai pas. je vais parler d'autres problèmes, des problèmes qui, ceux du deuxième niveau, réseaux sociaux, presse numérique et démocratie, des problèmes auxquels vous êtes confrontés directement. Directement, tous les utilisateurs moyens que nous sommes sont consacrés à cela. Et je vais vous présenter ces problèmes en vous disant, je pense que vous le savez, que ce sont des problèmes pour vous, c'est-à-dire que l'évolution d'Internet dépend de vous, hein, dépend des décisions, par exemple d'utiliser tel ou tel réseau social, ou de ne pas l'utiliser, ou de comment l'utiliser. Ce sont des problèmes donc qui se posent à votre niveau, au niveau de l'utilisateur final, et puis ce sont des problèmes, bien évidemment aussi, qui vont déterminer le futur d'Internet. Parce que, comme je l'ai dit, Internet est ouvert. Hein. À partir du moment où Internet est ouvert, bien... c'est l'utilisateur qui commande ce que sera le futur d'Internet, qui commande l'évolution de Facebook, de Google, etc. Je parlerai d'abord, donc, premier point, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le Web 2 a rendu possible, vous le savez, les réseaux sociaux, et chacun d'entre vous hein, connaît et pratique au moins le plus célèbre d'entre eux, je suis prêt à parier qu'il y a plus des trois quarts d'entre vous qui sont sur Facebook. Combien sont sur Facebook? Voilà, je risque rien, j'ai gagné. Mais les réseaux sociaux ne se réduisent pas à Facebook. C'est pourquoi je n'en parlerai pas, comme vous le connaissez, hein, Facebook. Il existe actuellement dans le monde hein, plus de 500 réseaux sociaux qui connaissent un succès extraordinaire. Pour vous donner quelques chiffres, en France, hein, il y a actuellement 16 millions d'inscrits dans les réseaux sociaux, 4 millions de connexions par jour, pour vous montrer l'ampleur du phénomène. Et je vous donne quelques exemples un peu en vrac de réseaux sociaux. Par exemple, Babelio, c'est pour les amateurs de livres. CineFriends, vous avez tout sur le cinéma. Hein. Convivial, alors celui-ci c'est un réseau très très particulier, c'est celui qui permet, c'est vraiment paradoxal, hein, c'est celui qui permet de faire connaissance de votre voisin ou voisine de palier. Donc vous passez par Internet pour connaître votre voisin de palier. Deezer, vous le connaissez. LinkedIn, Monster, Viadeo, Xing. Vous apprendrez à les connaître parce que ce sont des réseaux professionnels. Et j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a aussi MyMondoMix, par exemple, qui est à Marseille, qui est un réseau recensant et favorisant les initiatives citoyennes. Il y a Policy Network, hein, qui est un grand réseau entre hommes politiques, experts, un réseau international sur l'économie, la politique. Réseau Campus, contact entre étudiants. Vox Femina. Vox Femina, un réseau très important qui vise à promouvoir l'accès des femmes aux hautes fonctions et l'égalité entre hommes et femmes. Alors vous le voyez, les réseaux sociaux donc ont toutes sortes de fonctions. Hein, vous le savez, partager un intérêt commun, lier des relations d'amitié ou d'amour, établir des liens professionnels, etc. Et je vais me contenter d'attirer l'attention donc sur deux de ces réseaux que j'ai appelés réseaux internes des entreprises et réseaux professionnels parce que vous connaissez les autres. Hein. D'abord, il y a les réseaux qui sont aujourd'hui des instruments de travail dans l'entreprise. Et ils sont de plus en plus importants ou dans des administrations. Hein. Et de nombreuses entreprises donc intègrent leurs employés, leurs clients dans des réseaux sociaux pour faire remonter les critiques ou les suggestions. Je vous en donne un par exemple, IBM. Le réseau qui s'appelle BluePage, il a plus de 500 000 profits, hein, IBM qui est une grande entreprise multinationale, 500 000 profits, 1400 communautés, 40 000 blogs, 3,5 millions de communications par semaine, alors que IBM n'a que 380 000 employés. Donc il y a aujourd'hui, vous le savez peut-être, des entreprises spécialisées dans la construction de ces réseaux sociaux d'entreprise, il doit y en avoir énormément dans le tourisme, bien sûr, hein. Et parfois même ces réseaux, je terminerai par là sur ces réseaux professionnels, des réseaux d'entreprise, débordent le cadre strict du temps de travail. Hein. Ils permettent de maintenir des liens, de créer un climat de confiance, un climat maison entre employés, direction, clients, etc. Deuxième type de réseau, les réseaux professionnels. J'en ai cité tout à l'heure quelques-uns. Ce sont des réseaux qui ont pour objectif la gestion de votre carrière. Je suis sûr que dans 4 ou 5 ans, vous serez sur ces réseaux-là, hein, même si vous n'y êtes pas pour l'instant. C'est-à-dire que la recherche d'un travail nouveau, par exemple, aujourd'hui, passe pour l'essentiel par ces réseaux. Et une notion est devenue fondamentale, vous en avez sans doute entendu parler, c'est ce qu'on appelle le capital social. On parle aussi de capital humain. On entend par cette expression le fait de se constituer, avec le temps, progressivement, un réseau d'amis et de connaissances, un réseau qui doit être tenu à jour, bien sûr, et qui est évolutif. Et de plus en plus, c'est un atout essentiel dans la gestion d'une carrière. Il y a d'ailleurs certaines universités, certaines écoles qui apprennent aux étudiants à tenir leur profil sur ces grands réseaux. À diplôme égal, et quel que soit le niveau auquel vous travaillez, eh bien, il y a des statistiques qui montrent que la carrière d'un individu est très différente selon qu'il réussit ou non à avoir ce capital humain. Et vous savez que les réseaux de ce type reposent sur ce qu'on appelle, vous en avez sans doute entendu parler, la force des liens faibles. La force des liens faibles, c'est le fait que des liens qui ne sont pas, à proprement parler, forts, ne sont pas des liens familiaux, ne sont pas les liens sur le lieu de travail, ce sont par exemple des amis d'amis, des connaissances. Bien, cette force des liens, ces liens faibles sont extrêmement importants parce qu'ils vous permettent de sortir de vous-même en quelque sorte, de sortir d'autres milieux où vous tournez en rond et de vous mettre en relation avec des gens qui n'ont pas forcément la même idée que vous, les mêmes pratiques, etc. Et puis, par ces liens faibles, vous pouvez entrer en contact avec d'autres personnes, etc. Alors, je me contenterai de dire, à propos des réseaux sociaux, je terminerai par l'importance culturelle des réseaux sociaux, et je pense que c'est une importance qui va... On va voir que ces réseaux sont de plus en plus importants dans l'avenir. Je dirais juste quelques mots en faisant remarquer que leur caractéristique commune, c'est qu'ils sont une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de vivre les relations sociales, et si on utilise bien leur potentialité, bien, si on évite les dangers éventuels liés à leur usage, je crois qu'ils peuvent être une chance à la fois pour l'individu et pour la communauté. Renforcer à la fois l'individualisme, au meilleur sens du terme, l'esprit d'initiative, de se prendre en charge, etc., et puis, d'autre part, la communauté. En effet, leur caractéristique, vous le savez sans doute par Facebook, c'est de créer des relations nouvelles entre les individus, c'est-à-dire de les libérer de ce qu'on appelle les milieux naturels, qui sont la famille, le lieu de travail, ou la nation, ou l'ethnie dans laquelle ils sont nés. Donc les libérer de ces milieux naturels, sans pour autant les couper des milieux naturels, et sans non plus les enfermer dans de nouvelles relations. Alors je précise un peu cela. D'une part, contrairement à ce qu'on croit souvent, les réseaux sociaux ne coupent pas les individus de leur milieu naturel. Je cite un sociologue français qui s'appelle Casilli, qui a écrit de beaux livres là-dessus. Il dit « La grande masse des usagers se sert d'Internet dans le cadre de contextes sociaux professionnels. À la fois pour maintenir, donc pour élargir les réseaux naturels dans lesquels ils sont, la famille, le travail, les amis, mais en même temps pour ne plus en être prisonnier. » Pour ne plus être prisonnier seulement de la famille ou des amis de la famille, ou de la classe au sens scolaire du terme. Les réseaux sociaux donc témoignent à la fois de la volonté d'un resserrement des rapports sociaux, mais en même temps d'une volonté d'élargissement de ces rapports sociaux existants et de libération par rapport à eux. Alors j'insiste sur ce point car on accuse souvent les réseaux sociaux, vous le savez, de détruire les communautés naturelles, de remplacer les communautés naturelles que sont les amis sur les amis dans le lycée ou les voisins sur le lotissement. On les accuse de mettre à la place des communautés virtuelles. Alors c'est toujours possible. C'est toujours possible, mais c'est un phénomène un peu pathologique. Alors bien sûr, vous pourriez citer les otaku japonais, vous savez, ces adolescents malades, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, hein, qui ne vivent plus ni avec leur classe scolaire, ni avec leur famille, qui passent jour et nuit sur Internet, etc. Bon, c'est un usage pathologique, comme il y a des usages pathologiques, bien sûr, des jeux vidéo ou de toute autre technique. Hein. Mais je crois que ça n'est pas représentatif. Alors, j'ai dit que ces réseaux ne coupent pas les individus de leur milieu naturel, mais ils ne les enferment pas non plus dans les nouvelles relations, parce que vous savez très bien que ces réseaux sont à la fois fermés et ouverts, que les relations sont reconfigurables. Hein, vous pouvez modifier votre liste d'amis sur Facebook. Hein, et dans le meilleur des cas, je crois que ces réseaux renforcent à la fois l'individualisme et la sociabilité. Hein. Il y a un sociologue, c'est Casilli dont j'ai déjà parlé, qui dit qu'ils permettent de construire un espace intime commun. C'est un peu paradoxal, hein, un espace intime commun, ou alors un individualisme en réseau, une sociabilité basée sur des liens faibles. Bref, ils permettent de construire des relations très diverses qui vont, bien sûr, des liens très forts, la famille, le petit cercle d'amis, à des liens plus faibles, plus ou moins solides, plus ou moins durables, qui peuvent vous amener du travail, de l'aide, de l'information, des idées différentes, ou simplement de nouveaux amis. Alors bien sûr, il ne faut pas idéaliser ces relations. Il y a eu un moment au début d'Internet, vous savez peut-être, s'est développée toute une idéologie un peu utopique, toute une conception du monde utopique. Internet serait le lieu de la liberté complète, de l'échange gratuit, d'une économie du don. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire qu'Internet finirait par réaliser le communisme, en quelque sorte. Donc Internet serait un lieu de solidarité, de reconstruction des liens, et des reconstructions de liens non hiérarchiques, qui seraient des liens de bas en haut. Alors bon, on en est un peu revenu. Aujourd'hui, on sait quand même qu'Internet a donné lieu à la construction d'énormes groupes, comme Facebook, comme Google. Mais quand même, ceci dit, je crois que grâce à Internet, il y a une économie du don. Des individus qui partagent des fichiers, des informations, alors pas toujours légalement, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Hein. Il y a une économie d'entraide par Internet tout à fait réelle, hein. Et il y a bien sûr toujours le risque de partir vers un monde imaginaire, hein, comme les otaku dont j'ai parlé, de création d'une échappatoire utopique, hein. Mais évidemment tout dépend de l'utilisation que vous faites de ces réseaux sociaux. Donc pour terminer, je crois qu'ils sont au cœur du futur d'Internet, hein, qu'ils se développent aujourd'hui à une vitesse extraordinaire, vous voyez, depuis 2004 avec Facebook, hein, et on peut penser qu'il en ira de même dans le futur, hein, et je crois simplement qu'il faut qu'on parvienne à s'approprier ces réseaux sociaux, en faire un usage réfléchi, hein, pour renforcer à la fois l'individualisme et la communauté. Bien, cela suppose une réflexion au niveau collectif, mais aussi, bien sûr, au niveau individuel. Je passe au second point, la presse numérique. J'ai parlé de trois problèmes avant de vous laisser la parole. Trois problèmes, le second est la presse numérique. Je dirais que le web 2 est en train de révolutionner, vous le savez, les médias et la presse. Parce que le Web 2 remet en pratique un modèle traditionnel, celui des journaux et celui des télévisions, des chaînes généralistes, c'est-à-dire d'une information diffusée de haut en bas par des journalistes professionnels. Comme avec le Web 2, chacun peut devenir un publilecteur, vous connaissez sans doute cette expression, et même à la limite, chacun peut devenir quelque chose, ou au moins rêver de devenir un citoyen journaliste. Bien, ou au moins il peut interagir avec les journalistes, bien on voit évoluer complètement les pratiques des lecteurs de la presse, mais aussi les pratiques des journalistes, les pratiques des lecteurs qui changent considérablement, j'en parlerai tout à l'heure, avec les agrégateurs de news, comme vous connaissez Google News, etc., qui sont des agrégateurs modulables par chacun, on en parlera. Et puis il y a les pratiques journalistiques qui changent, on voit des rédactions en ligne fusionner avec des rédactions traditionnel. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps dans le journal Les Échos. Hein. On voit apparaître des journaux comme Le Monde, Le Figaro, Libération en France, hein, où il y a une interaction importante entre l'information en ligne et l'information papier. On voit arriver aussi quelque chose, on n'a pas de nom en français pour en parler, mais ce qui s'appelle les pure players. Hein. Les pure players, ce sont ces journaux qui sont payants ou non payants, mais souvent payants, comme Mediapart, comme Rue 89, etc., sont des journaux qui sont entièrement sur Internet. Il n'y a plus de support papier. Alors, c'est un mouvement passionnant. C'est quelque chose qui est en train de naître sous les yeux. On ne sait pas trop où ça va aller. Hein, mais c'est un mouvement qui comporte des risques, mais qui comporte aussi, je crois, des espoirs, qui fait naître des espoirs. Je voudrais très rapidement parler des risques. Trois problèmes liés à la presse. L'éclatement, d'abord, de l'espace public. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la presse en Europe, elle a été liée, depuis le début, à la démocratie. Elle est encore une institution essentielle de la démocratie, car elle permet de créer, vous connaissez l'expression, un espace public, c'est-à-dire un lieu où des citoyens qui ont des intérêts divers, des valeurs diverses, des croyances diverses, peuvent s'informer, peuvent débattre, peuvent se forger progressivement une opinion sur des questions qui relèvent de l'intérêt commun. Or, avec les blogs, avec la multiplication des réseaux sociaux, des sites de toute nature, vous savez qu'on assiste actuellement à un éclatement. Assez impressionnant, hein, un éclatement de l'espace public, hein, comme si l'élargissement du public allait de pair avec une fragmentation. Hein. Et on le voit bien en particulier, je ne donnerai qu'un exemple de cela, avec la fin des journaux par paquet. Vous savez ce qu'on appelle un paquet? Quand vous achetez au kiosque du coin un journal, vous achetez tous les articles à la fois. Ça ne veut pas dire que vous allez les lire tous, hein. Il se peut que vous sélectionnez, généralement c'est le cas, mais vous les aurez vus au moins. Hein. Vous aurez vu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de votre avis. Or, maintenant, vous savez qu'avec ce qu'on appelle les agrégateurs de news, dont j'ai parlé tout à l'heure, chacun se fait son journal. C'est-à-dire chacun choisit ses articles. Hein. Allez sur quelque chose qui s'appelle NetVibes, vous verrez, c'est un site français remarquable, c'est un agrégateur de news, hein. Vous verrez comment chacun peut se faire son propre journal, à tel point qu'il y a un sociologue américain qui s'appelle Sunstein, qui a fait un jeu de mots, bon, qui est amusant en anglais, un peu moins en français, mais il a dit chacun se fait son daily me, c'est-à-dire son quotidien du mois. Alors, ça peut être très bien, ça vous donne une grande liberté, mais en même temps, vous voyez l'inconvénient, c'est que si vous choisissez vous-même vos articles, si vous êtes de gauche, vous allez choisir des articles de gauche, si vous êtes de droite, vous allez choisir des articles de droite, si vous êtes un fanat du foot, il n'y aura que du foot dans votre information, et puis au total, qu'est-ce que vous écouterez? Qu'est-ce qui va vous revenir? L'écho de votre propre voix. C'est-à-dire que vous allez être en quelque sorte enfermé en vous-même. Or, l'intérêt d'un journal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer un espace public, c'est de créer un journal où vous puissiez rencontrer d'autres opinions que la vôtre. C'est un véritable problème. Le deuxième problème, c'est, je l'ai mis sous forme d'interrogation, la fin du journalisme. La fin du journalisme, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on assiste à l'affaiblissement. Vous savez que la presse est dans un triste état actuellement, la presse écrite. On assiste à l'affaiblissement des journalistes traditionnels qui filtraient l'information. Donc un journaliste, c'est un métier particulier, il filtre l'information, ce qui assure une certaine objectivité de l'information. Il met en forme, il hiérarchise l'information, il garantisse une investigation sérieuse, hein, par le recoupement des sources en particulier. Ils assurent le secret des sources, hein, la maîtrise de la diffusion, et puis la protection des droits d'auteur aussi, hein, puisqu'ils sont responsables juridiquement de leurs écrits. Or, tout cela est en train de se modifier considérablement avec Internet, puisqu'il suffit d'avoir une petite expérience d'Internet, hein, pour voir qu'on a l'impression quelquefois d'être devant un espace où règne l'anarchie, l'agressivité des débats, hein, regardez les forums, certains forums, hein, la fausseté des informations, la diffusion des rumeurs en quelques minutes sur toute la planète, hein, le pillage des œuvres protégées, hein, ou simplement des propos anecdotiques, hein, des propos, des émotions, des jugements de valeur à l'emporte-pièce, sans la moindre vérification, sans la moindre justification. Hein. Et bien sûr, un tri se fait dans tout cette énorme masse, mais vous savez par quelle méthode, hein, par la méthode de l'audimat, en quelque sorte. Hein, plus de gens sont intéressés, mieux vous êtes classés, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors on peut résumer cela en un mot, le risque, hein, c'est de remplacer l'élitisme qui existait dans la presse ancienne, hein, ou dans les télévisions traditionnelles, remplacer l'élitisme, qui est une conception souvent un peu paternaliste de la communication. Souvenez-vous par exemple le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs, vous aviez droit à écrire 4 ou 5 lignes, ça n'existe plus le courrier des lecteurs aujourd'hui. Vous remplissez un commentaire, vous remplissez un blog, etc. Bon, donc une conception élitiste un peu paternaliste, et on risque de la remplacer par quelque chose qu'on pourrait appeler populiste. Qu'est-ce que je veux dire par populiste? C'est croire, c'est une illusion assez dangereuse, que chacun peut être journaliste, croire que chacun peut être prof, croire que chacun peut être médecin, etc., qu'il n'y a plus de spécialistes en quelque sorte. Et je dirais une dernière chose enfin, ce que j'ai appelé le freemium. C'est un mot que vous ne connaissez pas, c'est un néologisme, un mot qui a été forgé en Amérique. Qu'est-ce qu'on appelle le freemium? Je vais le résumer très rapidement, c'est que de plus en plus, hein, le Web 2.0 a donné naissance à d'énormes groupes de presse, hein, au niveau international, hein, et que dans ces groupes, l'information gratuite, parce qu'elle est presque toujours gratuite, hein, cette information gratuite n'a plus qu'une place secondaire, elle est une des dimensions, si vous voulez, du divertissement. Hein. Et cette information, en plus, j'imagine que vous le savez, elle est extrêmement soumise à la publicité, mais à une publicité d'un type tout à fait nouveau. Je pense que vous savez comment fonctionne la publicité sur Internet, c'est-à-dire dans un journal traditionnel, la publicité elle n'est pas liée à un article. La publicité, elle est dans le journal. Par contre, sur Internet, imaginez que vous ayez une publicité pour les antidépresseurs, un article sur les antidépresseurs. Alors, pas en France, parce qu'en France, la publicité pour les antidépresseurs n'est pas autorisée. Mais partout ailleurs, là où la publicité pour les antidépresseurs est autorisée, vous allez avoir énormément de pubs qui va financer l'article sur les antidépresseurs. Donc, l'article, il va passer en première page. Et à la limite, d'autres articles, par exemple sur une maladie rare en Afrique, ou même sur une maladie africaine, tout simplement, hein, n'attirera pas la publicité, et donc risque purement et simplement de disparaître. C'est ce qu'on appelle le freemium. Alors pourquoi free? Free comme libre, donc une information libre, gratuite mais de mauvaise qualité, et puis en plus une information très subjective, biaisée par ce rapport à la publicité dont je vais parler, et puis d'autre côté, freemium comme premium, hein, premium qui signifie excellent, hein, donc par ailleurs une information payante, donc une information à deux vitesses, voilà ce que c'est que le freemium, hein, une information payante réservée à ceux qui peuvent se payer un abonnement à tel journal où vous avez une information plus objective, plus développée, etc., réservée donc à une certaine élite, hein, à des décideurs économiques, politiques, des chercheurs, etc. Voilà les trois problèmes. Ceci dit, je voudrais aussi présenter, pour en terminer avec ce deuxième volet, vous présenter des raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, j'ai repris les trois problèmes. La première raison d'espérer, c'est l'extension de la démocratie. L'extension de la démocratie parce que il faut rappeler que même si l'élargissement de l'espace public s'est accompagné d'une fragmentation, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Aujourd'hui, on voit que les réactions des citoyens face à l'information, face aux décisions des États, ces réactions peuvent entrer directement dans l'espace public. Autrefois, les réactions, elles existaient, mais au sein de la famille, au café du coin, hein, on parlait de ce qui se disait à la télévision. Mais maintenant, ça peut être publié directement par les blogs, par les réseaux sociaux, etc. Et c'est une formidable extension de la démocratie, puisque le public prend la parole sans qu'on lui demande de le faire, hein, sans attendre l'autorisation. Hein. Et il l'apprend, quelquefois dans le langage de tous les jours, hein, c'est-à-dire même en ne respectant pas beaucoup la syntaxe et la langue française, hein, et le public définit lui-même les sujets dont il veut débattre. Là, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est ce que j'ai appelé l'extension de la démocratie. Deuxièmement, un nouveau journalisme. J'aurais dû mettre un point d'interrogation, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'affaiblissement progressif des journalistes, mais il faut pas oublier aussi que ce modèle du journalisme traditionnel, c'était un modèle un peu paternaliste, avec un contrôle de l'information, et puis un public relativement passif. Hein. J'ai parlé du courrier des lecteurs tout à l'heure, ou de celui qu'on interviewe pendant 30 secondes, dont on ne saura même pas le nom, dans une radio. Or, aujourd'hui, on voit apparaître donc une sorte de journalisme nouveau, qui est une synthèse, une complémentarité entre le journalisme professionnel et puis les interventions actives des citoyens. Alors ça prend des formes diverses. Hein. Par exemple, vous avez les commentaires au bas des articles de journaux, et puis même, quelquefois, les journalistes reprennent pas seulement des commentaires, mais des blogs entiers qui deviennent quasiment professionnels, hein, qui se professionnalisent grâce à l'aide des journalistes. Hein. Et inversement, la pratique la pratique des journalistes se transforme, mais aussi la pratique des blogueurs. Hein, les blogueurs deviennent plus professionnels. On assiste, en particulier dans ces journaux que j'ai appelés les pure players, hein, cette Presse Nouvelle, Mediapart, Rue 89, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a d'autres qui sont pas payants, par exemple. Un journal, je ne sais pas s'il faut l'appeler un journal, mais comme Doctissimo, ou bien auféminin.com, etc. Il y a une collaboration extrêmement étroite entre, d'une part, des experts, ça peut être des médecins, ça peut être des journalistes, etc., et puis le public, qui n'est pas réduit à un rôle purement passif. Hein. Et il me semble qu'on est en train, dans ce nouveau journaliste, d'éviter les deux écueils dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Ni donc l'élitisme qui réduit le public à l'état de passif, mais ni le populisme, hein, la croyance fausse que chacun peut devenir journaliste. Enfin, je terminerai sur le nouveau modèle économique pour la presse, mais là j'irai vite, hein, en disant que le danger du freemium existe, mais qu'on voit apparaître des formes intéressantes, intelligentes de freemium, c'est-à-dire, hein, prenez des journaux par exemple comme Le Monde en France, ou comme Libération, ou comme Le Figaro, bien, vous avez là une partie gratuite, de bonne qualité, mais qui est un produit d'appel. Si vous voulez plus, si vous sentez le besoin de davantage d'informations, bien vous allez passer au payant. Hein. Mais c'est un modèle très 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 intéressant parce que chacun peut dépenser ce qu'il veut, accorder l'intérêt qu'il veut aux médias. Il a le choix là. Donc je crois que c'est quelque chose qui se met en place et il me semble, pour terminer, qu'on peut être relativement optimiste sur l'évolution de la presse qui, partout, vous le savez, est en grande crise. On licencie partout, absolument partout, dans les rédactions. On a moins d'argent pour faire les très grands reportages, etc. Mais ça veut dire simplement qu'il y a un modèle de presse qui est un peu dépassé, qui va se modifier, qui va probablement se modifier d'ici un an ou deux, avec l'arrivée massive, la migration massive sur l'iPad, hein, et sur toutes les tablettes numériques, c'est la fin du journal papier. Hein, ce n'est pas la fin du journalisme. Je dirais quelques mots pour terminer sur un troisième problème, Internet et la démocratie. En parlant des dangers et puis de trois usages prometteurs, dès sa naissance, Internet donc a fait naître, vous le savez, des espoirs de rénovation de la démocratie, hein, puisqu'Internet c'est un outil démocratique par excellence. Hein, il élargit les échanges, il élargit l'espace du débat. Il ne connaît pas la coupure. Hein, Internet ne connaît pas la coupure entre les gouvernés et les gouvernants, parce que Internet s'auto-gouverne, hein, vous savez peut-être. Il ne connaît pas les frontières nationales. Hein, il permet une démocratisation du savoir. Vous voyez Wikipédia, hein. Vous savez que vous pouvez écrire sur Wikipédia, hein, que tout individu qui a un minimum de compétences peut écrire sur Wikipédia, c'est-à-dire que c'est la fin d'une coupure trop trop rigide, hein, trop forte, entre scientifiques et amateurs, médecins et malades, journalistes et lecteurs, experts et bricoleurs. Hein. Enfin, Internet permet de former l'esprit critique de tous les citoyens, mais vous savez aussi qu'il y a loin de cet idéal à la réalité. Et s'il y a loin de cet idéal démocratique à la réalité, c'est parce que, paradoxalement, l'extension et la généralisation d'Internet ont profondément modifié l'esprit de l'Internet du début. L'Internet du début, je l'ai dit, c'était une petite élite militaire, démocratique, c'était un petit groupe fortement homogène. Maintenant, sur Internet, vous avez des individus, des groupes très hétérogènes, avec des pratiques tout à fait différentes, hein, des pratiques qui peuvent être d'excellentes pratiques, qui vont dans le sens de la démocratie, mais qui peuvent être aussi des pratiques extrêmement contestables. Et je vais commencer par le pire, hein, dire quelques mots des dangers. Bien, les dangers, vous les connaissez, au niveau démocratique, des formes d'expression qui ne sont pas compatibles avec la démocratie, hein, des analyses unilatérales, des analyses très subjectives dans les blogs et les commentaires, des émotions viscérales à chaud, hein, quelqu'un qui réagit par une haine ou un enthousiasme et non pas par des arguments réfléchis et froids, hein, des rumeurs qui font le tour de la planète, des insultes, des groupes de haine, vous savez ce qu'on appelle les hate groups, hein, aux États-Unis, ces groupes misogynes, racistes, violents, et même sans aller jusque-là, pensez simplement à quelque chose qui est une caricature de la démocratie, un peu, hein, le vote presse-bouton, hein, j'aime, je n'aime pas, sans réflexion préalable, hein, c'est vraiment pas comme ça qu'on pratique dans une, qu'on vote dans une démocratie, puisque dans une démocratie on vote après un débat, hein. Donc ça peut paraître une caricature de la démocratie, et c'est pourquoi des commentateurs, hein, ont fait remarquer que Internet pouvait menacer la démocratie. Ceci dit, là encore, hein, je voudrais montrer que, je terminerai par là, que ces craintes ne sont pas totalement justifiées. Il faut en tenir compte, mais je crois qu'il y a des raisons d'espérer, qu'il y a des usages prometteurs, et je vais en citer trois ou quatre. Hein. Le premier usage d'Internet, et qui va sans doute beaucoup se développer, c'est que des communautés, par exemple des mairies, hein, des départements, etc., se sont emparés d'Internet pour tenter de rapprocher les élus des citoyens, de manière à ce que ces derniers participent davantage au débat politique et à la prise de décision. Mais vous savez que le bilan est assez moyen. Il y a des consultations par Internet, des débats sur des sujets, par exemple, environnementaux, hein, faut-il construire ici ou là un incinérateur, etc. Ces débats, ou sur des sujets technologiques, hein, sur les nanotechnologies ou d'autres, ces débats, quelquefois, marchent très bien, et puis, quelquefois, ne sont pas du tout des réussites, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes citoyens motivés, hein, ce qui veut dire que ça n'est pas le remède universel, ça n'est pas la panacée, hein, Internet. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, et un des problèmes fondamentaux, je le signale avant de passer au deuxième usage, un des problèmes fondamentaux, c'est que, évidemment, le débat sur Internet n'est pas la même chose que le débat démocratique. Hein. Un débat démocratique, dans une assemblée, par exemple, dans un conseil municipal, ça suppose des règles fixes. Très, très, très précise, hein, des règles de prise de parole. Ça suppose aussi, vous le savez, qu'on tire des conclusions, qu'on arrive à une fin. Il y a toujours un relevé de conclusions. Hein. Ça suppose que chacun écoute chacun. Ça suppose tout un ensemble de règles, donc c'est un débat réglé. Mais regardez le débat sur un forum, même un forum qui fonctionne bien, hein, tout le monde ne lit pas tout le monde, il y a des leaders qui apparaissent, qui prennent beaucoup plus la parole que d'autres. Bref, hein, le débat sur Internet, ça n'est pas immédiatement la même chose que le débat politique. Ça peut aider le débat politique, mais il faut bien être conscient de cette différence. Deuxièmement, je parle de trois usages prometteurs. Le deuxième usage prometteur, je crois qu'il n'est pas à chercher du côté de ces institutions, hein, qui font des débats en ligne, il est à chercher du côté des citoyens qui s'emparent eux-mêmes d'Internet, hein, sans qu'on leur demande, et qui créent des groupes qui se mobilisent pour telle ou telle cause. Vous avez vu par exemple en Tunisie récemment hein, là, le rôle d'Internet hein, dans la mobilisation contre un dictateur, hein, ou au moins contre un régime autoritaire. Hein, et donc souvent ça peut être contre un pouvoir, mais ça peut être aussi avec certaines institutions au niveau national, au niveau européen en particulier, hein, au niveau d'une commune, d'une administration, etc. Donc Internet redonne du pouvoir à ce qu'on appelle la société civile. La société civile qui se mobilise contre la guerre en Irak, pour sauver le climat, contre les mines antipersonnelles, pour quantité d'autres problèmes, hein, pour résoudre un problème de chômage, par exemple, à l'intérieur d'une zone urbaine, etc. Donc, voilà, je crois, le deuxième usage. Et puis, il y en a un troisième. On assiste depuis quelque temps, c'est très net aux États-Unis, c'est très net dans certains pays un peu moins en France, on assiste à une convergence, une complémentarité entre ce qu'on appelle les activistes, ceux qui se mobilisent d'eux-mêmes, qui n'appartiennent à aucun parti pour telle ou telle cause, et puis les partis politiques, ceux qu'on appelle autrefois les militants. Hein. Vous savez que les partis politiques sont de plus en plus intéressés par le renouvellement de leurs pratiques, parce qu'ils étaient bien un peu sclérosés, hein. Ces partis politiques, le renouvellement de leurs pratiques, le renouvellement du militantisme. Obama, par exemple, aux États-Unis, a utilisé de manière absolument admirable Internet, par exemple, pour faire un tractage. Pour faire un tractage, au lieu d'appeler les militants du parti, il lançait, ou plutôt son équipe lançait sur Facebook une demande. Et puis, il y avait des tas de gens qui n'appartenaient pas au Parti démocrate, mais qui soutenaient Obama et qui venaient faire le tractage. Les micro-dons aussi. Hein. Le micro-don, des quantités de gens ont donné un dollar, cinq dollars, etc. Et puis, comme la politique, elle a besoin d'argent, eh bien, tout cela a été très, très important. Alors, je ne sais pas où on ira. Hein. Je ne sais pas où on ira, là, dans ce renouvellement de la vie politique, mais je crois que c'est quand même un usage prometteur. Et puis, comme je me suis trompé et que j'ai dit trois usages et qu'il y en a un quatrième, donc je terminerai par un quatrième usage, avant de vous laisser la parole. Il y a un quatrième usage, mais c'est un peu un lapsus, j'ai oublié de le frapper, mais c'est parce qu'il est très, très problématique et très ambigu. C'est ce qu'on appelle, un peu partout dans le monde en ce moment, la libération des données. Cette idée hein, que, grâce à Internet, il devrait y avoir de la transparence, beaucoup plus de transparence à tous les niveaux, hein, sur l'activité des parlementaires, sur les marchés publics, sur les statistiques de l'INSEE, etc., sur l'environnement, sur tout. Hein. Et c'est un mouvement très intéressant qui a amené, par exemple, Obama aux États-Unis hein, à faire une opération qui s'appelle Government 2.0, qui signifie que l'administration doit publier les données à partir desquelles elle construit ses analyses, pour que les citoyens, qui aujourd'hui sont des citoyens capables de faire des analyses, hein, puissent reprendre ces données, puissent contester telle ou telle analyse. C'est très intéressant. C'est très intéressant, sauf que, ça peut, vous l'avez vu avec l'affaire Wikileaks, hein, que vous avez sans doute suivi, ça peut déboucher aussi sur des pratiques très très contestables, puisque les fuites organisées par Wikileaks ont été critiqué assez sévèrement un peu de tous les côtés, hein, pas seulement par les gouvernements, pas seulement, c'est pas une question politique, dans tous les partis politiques, hein, il y a eu cette idée que la transparence pouvait être totalitaire, hein, que la transparence pouvait être manipulatrice, hein, que la transparence n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que des individus peuvent reprendre, hein, des groupes peuvent reprendre des données qu'on met à leur disposition pour faire des analyses encore moins objectives que celle d'une administration ou d'un gouvernement. Hein. Toutes les manipulations sont possibles et c'est quelque chose sur quoi on doit beaucoup réfléchir. Hein. Cette transparence absolue, qu'est-ce qui doit être transparent, qu'est-ce qui doit être secret. De même que les conseils de classe, je ne sais pas comment vous pratiquez ici, mais quelquefois il y a une partie du conseil de classe qui est secret, qui est entre professeurs, hein, et puis des parties où il y a des délégués. Tout ne peut pas être mis à jour, et en tout cas pas les données personnelles. Je terminerai donc en disant que nous ne savons pas, hein, ce que Internet va devenir. Hein. Il me semble quand même qu'il y a au moins trois choses qui sont en mouvement. Et on est vraiment au milieu du guet. Donc, qu'est-ce que ça va devenir ? Mais c'est à vous, en particulier, que la réponse appartient. C'est vous qui déterminez l'usage qui est fait des réseaux sociaux. C'est vous qui allez voter pour une presse différente, si vous adoptez ou non l'iPad, par exemple, qui sera beaucoup moins cher pour l'instant, est inabordable quand vous faites des études, mais l'iPad ou les tablettes, etc. Donc l'avenir d'Internet dépend de vous, à trois niveaux, et puis à d'autres niveaux, il dépend des citoyens, de l'action politique, etc. Ces trois niveaux, c'est évidemment les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous allons faire. Deuxièmement, la presse, comment va-t-elle évoluer? Et puis, troisièmement, la démocratie, est-ce qu'elle va être rénovée, jusqu'à quel point, par la pratique d'Internet? Vous voyez que je n'ai pas parlé volontairement des usages professionnels. Vous attendiez peut-être à ce que je parle un peu plus des usages professionnels d'Internet, mais d'abord parce que je ne connais que les miens, véritablement, les usages professionnels. Vous connaissez mieux l'usage d'Internet dans le tourisme, par exemple. On en parlait à table, des agences de voyage, la nouvelle manière de consommer du tourisme, de vendre du tourisme. Et donc, mais on pourra en parler. J'ai voulu quand même parler de choses que peut-être vous connaissiez moins, tout en les pratiquant beaucoup, puisque vous pratiquez les réseaux sociaux, puisque vous lisez de l'information avec des agrégateurs de news, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre iPhone ou sur un autre support. Nous allons discuter de tout cela. Donc si vous pensez que j'ai oublié des problèmes importants, signalez-le moi. Et si vous pensez que j'ai dit des bêtises, des choses qui peuvent être réfutées, alors là, réfutez-moi, puisque j'ai un ancêtre qui est assez connu, un peu plus célèbre que moi, qui s'appelle Socrate, qui disait « j'aime à être réfuté ». C'est la devise de tout, non seulement de tous les philosophes, mais de tous ceux qui réfléchissent. Être réfuté, c'est une excellente chose, donc nous allons discuter, j'espère, de tous ces thèmes que je n'ai fait que survoler, parce que l'avenir d'Internet, c'est immense. Je suis très content d'avoir fait cette... parce que je suis un accro d'Internet, cette conférence, je suis un accro d'Internet. Depuis qu'Internet est né, j'ai toujours adoré cet outil. Et puis je l'ai vu naître avec stupéfaction, les évolutions, et j'espère encore que je serai stupéfait assez longtemps, parce que dans 2 ans peut-être, on aura quelque chose de radicalement différent. C'est ça l'avantage d'un système ouvert, en évolution permanente, avec tous les problèmes que ça pose. Là, avant de venir vous voir, j'écoutais que, c'est un problème technique, mais il n'y a plus assez d'adresses IP. En février, il n'y aura plus assez d'adresses IP, donc on ne pourra plus distribuer des adresses IP. L'adresse IP, c'est ce qui vous permet de vous connecter, de connecter une machine, un ordinateur, à Internet. Bon, mais ce sont des problèmes qu'on va résoudre en marchant, il n'y a aucun doute. Voilà, merci beaucoup de votre attention, et j'espère que nous allons avoir un débat fructueux. Merci encore.